Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h19, nous sommes toujours avec Xavier de Namur, mais on parle des hôtels aussi ce matin avec Vincent Anne, bonjour.
Bonjour.
Propriétaire de l'hôtel Windsor Opéra dans le 10e arrondissement. Elodie Garamond est avec nous aussi, bonjour Elodie.
Bonjour Cécile.
Fondatrice du Tigre Yoga Club et venue pour cette association Touche pas à ma salle.
Oui, absolument, avec beaucoup de salles de sport, enfin la plupart, qui sont fermées depuis maintenant des mois, qui ont rouvert un petit peu, qui est enfermé, comme les hôtels. Alors, c'est une situation très particulière pour les hôtels, et on prendra donc Xavier de Namur dans un instant. Pour les hôtels, c'est particulier parce qu'il n'y a pas eu de fermeture ordonnée, Vincent Hahn, comme pour d'autres secteurs.
Hein. Oui, on n'a pas eu d'arrêté de fermeture au mois de mars, parce que ils n'ont pas eu à se payer le luxe de nous fermer, puisque de fait, nous étions fermés par l'absence de clients. Ce qui est bien dommage pour nous, parce que nous n'avons pas eu d'aide pendant 8 mois.
Ouais.
On a commencé à avoir des aides au mois de novembre. Donc de mars à novembre, perte sèche, aucun fonds de solidarité, rien.
Et tout à régler.
Et tout à régler, parce qu'on a énormément de charges. Donc on a commencé à faire des PGE, mais un PGE n'est pas une aide, un PGE c'est un prêt. Et il faut bien commencer à rembourser au bout d'un moment. Et moi, j'ai eu 10 000 euros au mois de novembre et j'ai eu pour le mois de décembre, comme les restaurants, c'est-à-dire 20% du chiffre d'affaires du mois de décembre en référence de l'année d'avant.
Ouais,
voilà. Et ça va continuer pour janvier, mais je ne sais pas combien de temps ça continuera. Ce qui veut dire qu'entre mars et octobre inclus, on n'a eu aucune aide.
Ouais, ouais.
À part le chômage partiel, comme tous les gens qui ne pouvaient plus...
Et alors, vous n'avez pas fermé, quoi, parce que vous auriez pu fermer en se disant, je ferme et puis j'aurai moins de charges.
Vous baladez à Paris, vous verrez que la plupart des hôtels sont quand même fermés, c'est-à-dire qu'ils sont palissadés.
Dans beaucoup de parties de France.
Pour éviter les cambriolages.
Entre autres, alors, il se trouve que l'hôtel Windsor, moi j'ai une énorme verrière, donc j'avais une contrainte technique à poser des palissades, donc j'ai fait ce qu'ont fait certains hôteliers, c'est-à-dire que je me suis installé dans mon hôtel pour faire le gardien.
Ouais.
Et je suis maintenant donc confiné dans mon hôtel vide depuis le mois de mars.
Vide vraiment ou vous avez quand même un petit peu de
visite ? La semaine dernière, j'ai eu un client de nuit. Et ce soir, j'ai 3 Belges.
Ouais.
Mais c'est tout pour la semaine.
Ouais.
En fait, en temps normal, je fais à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois.
Ouais.
Et là, je fais entre 1 000 et 3 000 euros pour les mois fast par mois. Donc, j'ai 99% de perte de chiffre d'affaires.
Ouais. Et on ne vous a pas proposé, à un moment donné, de se dire, finalement, comme c'est une situation difficile, un peu comme pour les restaurateurs, etc., vous fermez, puis il y aura un remboursement du chiffre de votre chiffre d'affaires.
Non.
Enfin, à hauteur de votre chiffre d'affaires.
On n'a pas eu ça. On n'a pas d'arrêté de fermeture. On est censé être ouvert. Et pour vous dire à quel point ils considèrent qu'on est ouvert, moi, on m'a quand même... fait une visite de sécurité de la préfecture de Paris au mois de décembre.
Ouais.
Chacun ses priorités. Mmh. Moi, ils sont venus me contrôler en décembre, parce qu'on est contrôlé tous les 3 ans, avec tout l'aréopage de la préfecture, le pompier, tout ça, pour me renouveler mon autorisation à recevoir du public. Alors, puisque j'étais fermé depuis 10 mois, et avec les confinements successifs, j'avais tout un tas de visites de maintenance qui n'avait pas été faite, la vérification des extincteurs, la trappe de désenfumage, le système de sécurité incendie, enfin tous ces trucs-là, que j'ai dû faire en urgence pour être au point au moment où la préfecture débarquerait.
Ouais. Bon, donc situation effectivement plus que complexe, quoi, évidemment.
Ouais.
Sur les salles de sport, Elodie Garamond, bonjour.
Oui, bonjour Patrick.
Même chose, les salles de sport sont fermées, mis à part quelques petites dérogations sur prescription médicale. Quoi.
Oui,
mais c'est extrêmement rare,
comme,
ça, non ?
Comme le décret a été pris très vite, sans anticipation et sans concertation, il y a évidemment des petits trous dans la raquette.
Ouais.
Donc dans les petits trous dans la raquette, il y a effectivement cette idée qu'on peut ouvrir sur prescription médicale, mais ça ne concerne qu'un certain nombre de maladies et il faut avoir des professionnels qui peuvent accueillir ce public avec des compétences précises pour répondre à ces impératifs médicaux. Or, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a, et je ne jette la pierre à personne, qu'il y a beaucoup de personnes qui en profitent. Et il y a d'autres
fraudes
dans la raquette. Ouais. Si par exemple, on propose des activités artistiques comme la danse, on peut rester ouvert puisque c'est une activité artistique et non pas physique. Il faudra m'expliquer la différence. Donc certaines personnes proposent des cours de sport dans les salles de danse et ça, c'est autorisé. autorisé, ce qui est complètement absurde. Et puis, il y a les ERPR, il y a les centres de formation. Mmh. Donc, il y a plein de petits trous. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui défendent la filière du sport et qui s'exposent finalement et se mettent en risque pour les autres et donc restent fermées, passent pour des cons. Parce que nous, on a des élèves qui nous disent « Je ne comprends pas, un tel reste ouvert et un tel est ouvert et machin est ouvert. Et pourquoi vous, vous n'y arrivez pas ?» Et effectivement, pourquoi nous, on n'arrive pas à trouver la petite faille qui nous permettrait de rester ouvert ? Tout simplement parce qu'on essaye d'être dans les clous pour défendre cette filière et pour rouvrir légalement parce que c'est absurde de nous avoir fermés. D'autant qu'il n'y a eu aucune étude. Et surtout, on n'est pas rentré dans le détail des activités. Donc, on a considéré qu'on fermait intégralement la filière sport, le 25 septembre. Et je rappelle quand même, pour ceux qui l'ont oublié, qu'on était les derniers à rouvrir au mois de juin, quand tout le monde avait rouvert en mai. Nous, c'était le 22 juin, avec des contraintes, des protocoles d'accueil sanitaire qui étaient hyper complexes, hyper coûteux.
Vous avez engagé de l'argent, oui.
Mais oui, on a engagé de l'argent, et surtout, ça dégradait considérablement notre offre. Donc, les élèves se plaignaient en disant « j'ai plus ci, j'ai plus ça, j'ai plus ma douche, j'ai plus mon matériel, etc. » Tout le monde a joué le jeu, il n'y a pas eu de cluster, il n'y a pas d'études prouvant que nous avons été des centres de contamination et on nous a fermé le 25 septembre. Donc on a eu le droit à l'été quand il n'y avait personne, ça c'était hyper sympa, et le 25 septembre on a refermé sans aucune concertation, sans qu'on ait anticipé quoi que ce soit, et on est fermé depuis.
Ouais. Donc aujourd'hui... Est-ce que ça veut dire que ça va changer quand même les habitudes de vos clients, de dire que maintenant ils sont tous allés sur le net, ou ils ont trouvé d'autres manières de travailler ?
Est-ce que ça aussi c'est pour certaines activités sportives, oui, et c'est là où, quand on a fait le référé liberté, on a demandé à être traité séparément pour les activités physiques sans contact, individuelles et sans contact des autres activités, parce que pour des salles d'escalade, pour des salles de foot, pour des salles de paddle. Bien sûr que quand ça va rouvrir, les clients vont revenir parce qu'ils sont contents de retrouver leur infrastructure. Mais pour le fitness ou le yoga ou le pilates, où on a pris les habitudes de pratiquer en ligne, il y a une offre pléthorique, payante ou gratuite sur tous les réseaux sociaux. L'habitude a été prise avec finalement un certain confort. Chacun s'est organisé, s'est équipé pour pouvoir pratiquer à la maison. Si, quand on va rouvrir, les conditions sanitaires sont trop strictes pour les enseignants et pour les élèves, et notamment qu'on nous impose le port du masque, qui va avoir envie de revenir chez nous ? Sincèrement, vous allez avoir envie de revenir trois fois pour retrouver vos profs et vos copains, mais pratiquer sans matériel, sans aucun service
connexe et annexe,
et en plus avec un masque, sincèrement, on préfère pratiquer gratuit chez soi sans masque, non ?
On va continuer juste dans un instant, après une petite pause. On retrouvera Xavier Denamur aussi, le restaurateur qui est avec nous et qui est en direct du Sud-Ouest. Et nous irons du côté de Marseille. Vous pouvez aussi réagir 0826. Oui, absolument. 300. On vous attend.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h29, merci d'être avec nous. Petit récapitulatif de nos invités. Xavier Denamour, qui est restaurateur à Paris et dans le Sud-Ouest. Avec nous aussi Vincent Anne, qui est propriétaire de l'hôtel Windsor à l'Opéra à Paris. Élodie Garamond, j'aurais dû commencer par vous, Élodie, fondatrice de Tigre Yoga Club. Et vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300, vous êtes ou dans la même situation, ou alors vous êtes un client et vous avez envie d'en parler. On vous attend au standard.
Oui, et au standard, au 0826 300 300, on a un restaurateur propriétaire de trois restaurants du côté de Marseille, dont le plus connu c'est chez Georges, c'est Eric Sermolacci qui est avec nous. Bonjour Eric Sermolacci.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, est-ce que vous aviez prévu d'ouvrir aujourd'hui, de façon un peu plus que symbolique quand même, vous en êtes où finalement Eric Sermolacci? Est-ce que vous allez le faire ou pas?
Alors voilà, moi c'est très simple, c'est ouvrir aujourd'hui pour refermer ce soir, ça veut rien dire. Je ne sais pas qui c'est qui a donné cette directive d'ouvrir pour que la police passe et relève les noms de ceux qui ont ouvert et leur ont envoyé des amendes parce qu'ils passeront pas les arrêter et rien dire et recevoir après l'amende ou une fermeture. Je vois pas celui qui a dirigé ça pour faire ça, c'est où on ouvre et c'est ce qu'on veut nous. Et on reste ouvert avec les gens qui veulent venir manger. Parce qu'on n'est pas là pour forcer les gens à venir manger. On est là pour ceux qui ont envie de vivre normalement et pas se laisser endormir par tout ce qu'on raconte à la télé, qu'un docteur, il dit un truc, que l'autre, il dit le contraire. Et tout est son contraire de tout le monde. Nous, on est là pour ouvrir pour des gens qui veulent vivre normalement, pour des gens qui veulent nourrir leur famille. Et à partir de là, il ne faut pas faire n'importe quoi, ouvrir et fermer ce soir pour rien faire.
Oui, bah oui, ça sert pas à grand chose, quoi. Ce que vous dites, vous mettez vous mettez votre établissement en danger, quoi, en quelque sorte, quoi.
La première des choses qu'il fallait faire, c'est le jour où on a été nous, les Marseillais, punis par la petite semaine de Monsieur Véran, qui nous ont fermé une semaine en plus. C'était ce jour-là qu'il fallait ouvrir tous les jours.
Oui.
Il fallait tous rester ouverts. Et là, on montre qu'enfin, il y a une vraie révolution des restaurateurs qu'on se fait endormir par toutes ces annonces en bois.
Oui, oui. Donc, alors finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous hésitez encore, Éric Sermolacci, ou pas?
Nous, c'est très simple. Le matin, là, depuis qu'il nous arrive tout ça, on est avec un petit groupe d'amis restaurateurs et des gens responsables. Hein, c'est pas des gens, jusqu'à présent, ils ont toujours été responsables, ils ont des familles. Et après, il faut complètement vivre et nourrir sa famille.
Ouais.
Donc, on est là en train de se réunir et en train de grandir et de monter, entouré par des gens de droit qui travaillent, des avocats. De prendre et qu'on va enfin se mettre en marche et on va tout ouvrir.
Ouais. Ah, vous allez tout ouvrir, oui.
Ah, ben nous, on est en train de se monter, là, et quand on est en train de monter un collectif, et quand on va démarrer, ben, ils viendront tous les jours, ils donneront des papiers, de fermeture, pas de fermeture, mais nous, on va ouvrir plus, parce qu'on est en train de mourir. Mais... Alors, il vaut mieux mourir debout, mais pas assis en train de se faire endormir.
Mais pas forcément aujourd'hui, alors, c'est ce que vous dites, quoi. Vous réfléchissez.
Aujourd'hui, pour moi, ça veut rien dire. Ouvrir ce matin, fermer ce soir.
Ouais.
C'est un truc complètement ridicule. On ouvre et on tient.
Ouais. Alors, restez avec nous, Éric Sermolacci. Xavier Denamur, qui est avec nous aussi en duplex en fait, du Sud-Ouest. Xavier Denamur, vous avez entendu Éric Sermolacci. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre par rapport à... On comprend ce qu'il dit, quoi, évidemment.
Moi, ce que je voudrais demander à Éric, c'est pourquoi les aides ne lui suffisent pas pour attendre. J'ai entendu M. Turillon et d'autres qui disent « on veut ouvrir parce qu'on veut le droit du travail ». Alors, je pense que le droit du travail, tout le monde l'a, on est dans une république. Quand les préfectures disent de fermer à 2 heures ou quand vous dites fermer le dimanche pour les magasins, bah, les gens ferment parce qu'on est dans une république et on doit écouter, le droit. Alors aujourd'hui, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi rouvrir à tout prix alors que les aides sont suffisantes. J'ai compris qu'il avait 3 restaurants depuis, contrairement aux hôtels, effectivement, qui n'ont pas eu d'aide, et moi non plus, d'ailleurs, les boîtes qui avaient plus de 50 salariés, on n'a eu aucune aide jusqu'au mois de décembre, même pas au mois de novembre, jusqu'au mois de décembre. Mais pourquoi il tient absolument à ouvrir? Pourquoi les aides ne lui suffisent pas pour patienter et pour pouvoir, lorsque l'épidémie et les vaccinations seront, auront fait leur effet, on pourra rouvrir avec les terrasses et tout ça dans de meilleures conditions. Parce que ouvrir aujourd'hui, ça veut dire mettre en péril l'entreprise et ses salariés. Non pas simplement d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue, économique. Parce que il est clair que rouvrir dans des conditions précaires, madame tout à l'heure parlait pour les salles de sport, lorsque vous avez très peu de clients, des jauges à moins de 50% et que vous respectez les protocoles sanitaires, nous on faisait jusqu'à moins 80%. Donc vous ne pouvez pas tenir des affaires à moins 80%. L'État aujourd'hui, effectivement, c'est une béquille, mais on a tendance à permettre de patienter pour rouvrir de manière, plus correcte. Et tout à l'heure, pour finir, vous parliez tout à l'heure, à la campagne, ils ont des grandes salles de restaurants, etc. À la campagne, il n'y a juste pas beaucoup d'hôpitaux. Et quand vous êtes à la campagne et que vous avez le Covid, que vous avez 80 ans, ou pas parce que vous êtes jeune, vous allez au restaurant, mais vous ramenez ça à la maison, vous ramenez ça à vos parents qui vont voir d'autres gens, soit des grands-parents, etc., et ben, c'est comme ça que se diffuse le virus, se diffuse la maladie, et on peut se retrouver dans la situation du Portugal, où vous avez les gens qui crèvent dans les couloirs. Moi, j'ai une sœur qui est infirmière, elle m'a dit qu'il n'y avait personne, même en France, il y avait un problème autour des lits d'hôpitaux, et en Angleterre, j'en ai une autre, parce que j'ai la chance d'avoir une famille éparpillée dans le monde entier. À Londres, ma sœur, qui est confinée chez elle depuis plus d'un mois, elle m'a dit que c'était absolument une catastrophe.
Alors, Éric,
où est-ce qu'on veut aller là, ou est-ce qu'on veut faire autre chose?
Éric, alors vous avez entendu Xavier Denamur, entre collègues et restaurateurs.
Mais je pense qu'on n'est pas sur la même planète, on n'est pas du tout dans le même monde. Je pense que quand on parle des villages où il y a des personnes de 80 ans qui peuvent... Dans les villages, quand on leur enlève le bar et le petit restaurant du coin, ils sont en train de mourir dans leur petite ferme. Ils n'avaient que ça. C'était le seul endroit où ils se réunissaient, qui parlaient. Après, ceux qui ne veulent pas, ils restent à la maison. Et c'est normal s'ils ont des pathologies à risque et qu'ils ne sortent pas. C'est comme... Mais par contre, on laisse les écoles ouvertes. Mais pourquoi? À un moment donné, il y a tout le monde qui continue à vivre. Tout le monde va travailler, tout le monde va chez Zara, tout le monde va dans les magasins, tout le monde va de partout. Donc, à un moment donné, il faut bien que le restaurant aussi y vive. Deuxièmement, j'ai jamais attendu après le gouvernement qui nous donne des aides. Nous, on s'est levé tous les matins, on est allé travailler. On a gagné notre vie, on a nourri notre famille. Mmh. Et aujourd'hui, on se laisse endormir avec des petites aspirines qui vous donnent 10 000, 12 000, 1 500 euros. J'en ai rien à foutre de ça. Je ne les veux pas, moi. Je ne les veux pas, ces aides. Moi, je veux me lever, travailler et nourrir ma famille, moi. J'attends pas après le gouvernement. C'est tout. Donc non, je mets personne en péril. Je mets... C'est ceux qui veulent venir manger et qui ont besoin d'avoir ce moment-là, comme d'aller dans les salles de sport, comme d'aller au théâtre, comme d'aller de partout.
Mmh, ouais. Voilà, c'est tout. Bon, on a compris votre, ouais, votre argumentation. On vous mettra pas d'accord, Xavier Denamur et Éric Savolacci. Comment ?
C'est impossible, pas du tout.
Ben non, oui, oui.
Et vous, Éric,
vous... on vit quand même dans une république, hein. On vit quand même, ben oui, collectivement, oui, on vit tous ensemble. Oui, c'est pas, ben, chacun de son côté,
ça, c'est vrai,
décide de faire comme il veut, etc. Alors, c'est pas alors, ça, la république.
Alors, qu'on commence par l'Europe, qu'il n'y en a aucun qui fait la même chose, et après, on parlera si on est solidaire en Europe, nous. Il n'y en a aucun qui fait la même chose. Donc expliquez-moi déjà, on vit en République. Oui, d'accord. Et on parle de l'Europe qui a commandé les médicaments, il n'y en a aucun qui a la même dose.
Mmh, ouais. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on peut comprendre, oui, dans certains pays, c'est fermé, ouais, totalement, pour les restaurants, les bars, les brasseries. Et dans d'autres, c'est ouvert. Et dans d'autres, c'est ouvert. Oui, c'est vrai.
Excusez-moi, expliquez aux Français qui vivent dans la même rue, ouais, où de l'autre côté de la rue, il y a les Espagnols. Mmh. Tous les restaurants français sont fermés, en face, tous les restaurants espagnols, ils sont ouverts. Mmh. Ils sont à 5 mètres l'un de l'autre. Mmh. Mmh. Vous allez en bas, à la frontière de l'Espagne, tout un côté, il est fermé, les Français, tout l'autre côté, il est ouvert, et l'Espagnol. Mmh. Allez expliquer ça.
Mmh. Bah oui,
le nombre de dépôts de bilan en Espagne est phénoménal. Les dépôts de bilan en Espagne des restaurants sont phénoménaux. En France, on a eu quand même l'année dernière, en 2020, moins 36% de dépôts de bilan en moins dans la restauration, qui est un secteur où normalement ça dépose énormément. C'est-à-dire que c'est un des secteurs où il y a le plus de dépôts de bilan. Pourquoi au Portugal, en Espagne, ils sont ouverts? Parce qu'il n'y a pas d'aide.
Dans quelques mois, on en reparle, on fait le bilan. Ah non,
mais il y aura. Ah, mais il y en a, c'est normal, puisqu'il y aura le rattrapage de 2020 et 2021. Donc il devrait y avoir entre 80 et 100% de plus de dépôts de bilan. Mais normalement, si on regarde bien l'Italie, l'Espagne, etc., pourquoi ils ouvrent? Parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Et donc du coup, ils se retrouvent avec des catastrophes dans les hôpitaux, des catastrophes où on doit trier les gens, comme ça s'est passé dans certains pays ou en Angleterre, où on trie ceux qui vont vivre, ceux qui vont mourir. Moi, je ne crois pas qu'on peut laisser faire ce genre de choses dans notre pays. Je ne suis pas médecin.
C'est toujours... Chez les autres, c'est bizarre, mais moi, petit, on me disait toujours, regarde dans ton assiette, on ne regarde pas chez les autres. Ouais. C'est bizarre quand il y a un politicien qui parle à la télé, il dit toujours, vous rendez compte, on fait plus de vaccins qu'en Allemagne, et toujours on regarde les autres. Mais de temps en temps, il faut regarder dans son assiette plutôt que de regarder les autres. Et qu'est-ce qu'on peut faire de bien ensemble, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mais nous, on est toujours en train de regarder les voisins. C'est bizarre, hein.
C'est Eric, toi qui as parlé de l'Europe en premier.
Oui, hein. Oui.
Ouais. Eric, c'est toi qui as parlé, qui a soulevé le problème de l'Europe.
Mais parce que tu dis la République, on travaille tous ensemble. Et ça démarre par l'Europe. Ouais. Maintenant, on est l'Europe.
Ouais. C'est évidemment extrêmement compliqué. Est-ce que, Éric, peut-être qu'il y a eu un problème, c'est-à-dire que certains n'ont pas respecté en fait l'ensemble des protocoles et finalement on paye pour tout le monde. C'est pas ça le fond de l'histoire quand même, un petit peu?
Pas du tout.
Non,
pas du tout. Mais alors, pas du tout.
Attendez. Éric, moi, je vais vous dire une chose. J'ai vu, en fait, des restaurants où il y avait des protocoles qui étaient bien respectés et ça fonctionnait plutôt pas mal. Je pense qu'on pouvait continuer. Et j'en ai vu d'autres où, pardonnez-moi, mais c'était le bazar, quoi. C'est-à-dire, il y avait 12 personnes. Il y avait 12 personnes dans des brasseries, à une table où normalement on devait être 6, quoi. Et donc, évidemment, à cause de ça, bah, les autres ferment, quoi.
C'est là que ça démarre ou après, il y en a. Ouais. Qui ont investi des 2000, 3000 euros de plexiglas, qui ont séparé les tables, qui ont mis des gels de partout. Donc après, on fait payer à tout le monde.
Ah oui.
Mais c'est pas ça, c'est qu'il y en a peut-être 2-3 qui ont dû remarquer qu'ils étaient plus que ce qu'il fallait attendre. Du coup, ils font payer la France entière.
Ouais.
C'est normal, ça?
On est bien d'accord. Ouais, on est bien d'accord. Bon, merci à tous les deux, hein, Xavier Denamur, restaurateur Paris et dans le Sud-Ouest, et Éric Servolacci du côté de Marseille. Il fallait vous entendre, en fait, de chaque côté, avec chacun ses arguments. On va continuer dans un instant et on va revenir aussi sur la situation donc des salles de sport avec Léodie Garamond et puis Vincent Hahn, qui nous a évoqué déjà aussi son problème pour l'ensemble des hôtels. Hein. Ça, c'est valable dans toute la France. Alors, alors que arrive, nous sommes le 1er février, arrive un mois où normalement le tourisme en France, on le rappelle, il faut le rappeler quand même, le tourisme c'est la principale source aujourd'hui de revenus en France, 85 millions de visiteurs habituellement, alors évidemment tout est coupé, tout est fermé aujourd'hui, mais et le secteur hôtelier qui souffre énormément, et l'ensemble du secteur évidemment derrière en cascade. On en reparle dans un instant sur Sud Radio.
9h41, on revient tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h44, on continue avec vos appels, 0826-300-300, Elodie Garamond, fondatrice de Tigre Yoga Club, et avec nous Vincent Haen, qui est propriétaire de l'hôtel Windsor Opéra Paris 10e. Juste une question, on parle souvent de tester et d'isoler et de réquisition de certains hôtels. Est-ce que vous, vous auriez apprécié, aimé justement être réquisitionné pour isoler des cas Covid ?
Au tout début de la pandémie en mars, je me suis porté volontaire déjà pour accueillir le personnel hospitalier. Et avant même que les syndicats hôteliers lancent le truc. Et pourtant, je ne suis pas très loin de la Riboisière et de Saint-Louis. Je n'ai jamais été contacté, donc je n'ai pas logé de personnel hospitalier. Ils n'ont pas eu besoin des hôtels, en tout cas pas du mien. Par la suite, j'ai passé mon temps à espérer qu'on me réquisitionne pour loger des personnes qui avaient besoin d'être en quarantaine. Mmh. Mais rien n'a été mis en place. C'est resté à l'état de vœux pieux. Alors que on aurait, nous, les hôtels, il y a quand même 1600, plus de 1600 hôtels à Paris, mmh. On aurait eu les moyens
France,
à nous
y en a
tous
partout,
avec
bien
toutes
sûr,
nos
bien
chambres sûr. D'isoler mmh. les bien gens sûr. Qui ont besoin d'être en quarantaine. Mmh. On n'a jamais été réquisitionné pour ça. Alors maintenant, il y a certains hôtels qui ont fait de l'hébergement d'urgence pour les personnes à la rue, les personnes en situation d'ultra-précarité. Mais nous, en 4 étoiles, on ne peut pas, parce que je crois que c'est 25 euros par nuit pour mmh. loger un sans-abri.
Ouais.
Nous, en hôtellerie, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on perd encore plus d'argent à les loger. C'est terrible de parler d'argent alors qu'on parle de personnes en situation de détresse. Mais on est quand même bien obligé d'y penser, de penser aux dégradations éventuelles derrière. Et puis, on a la survie de notre entreprise. Donc, que ce soit pour les hospitalisations, pour l'hébergement d'urgence ou pour loger des personnes qui ont besoin d'être en quarantaine,
Compte tenu en fait du contexte et puis de l'incertitude qu'il y a encore là dans les semaines qui viennent, Vincent Haen, les hôtels, alors les grandes chaînes, elles peuvent tenir plus ou moins parce que derrière, enfin même si c'est un peu
même
difficile,
eux, hein, même eux, hein.
Le groupe Accor par exemple.
Oui, j'ai déjeuné avec un gros patron d'Accor hier, ouais. Curieusement, avant de savoir que je viendrais ici.
Ouais.
C'est terrible pour eux.
Ouais. Ils ont eu le prêt, le fameux prêt.
Oui, ils ont eu un énorme prêt,
ouais.
Mais ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Ils sont en train de prendre des décisions terribles. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, parce que je crois que ce n'est pas encore officiel, mais ils sont en train de prendre des décisions absolument drastiques, le groupe Accor.
Ouais.
Et même, vous savez, à
probablement
partir du moment,
sur des plans de licenciement, quoi, et des fermetures.
Quelle que soit l'entreprise hôtelière, ouais. En tout cas, je parle de ce que je connais à Paris, qu'on soit un petit hôtel, un moyen hôtel ou un grand hôtel, ou qu'on fasse partie d'une chaîne, s'il n'y a pas d'étrangers, on ne peut pas s'en sortir.
Ouais.
Là, Monsieur Castex a fermé les frontières vendredi dernier.
Ouais.
Donc,
ce qu'on peut comprendre comme décision,
bien sûr,
quoi,
non, mais
ce qu'il aurait
fait,
peut-être fallu faire fait, d'ailleurs beaucoup plus
avant,
tôt, quoi,
oui,
peut-être, très certainement. Mais pour en tout cas, ça a eu un seul mérite, c'est que moi, ça me permet de voir un peu plus loin. C'est-à-dire que depuis le mois de mars, je ne pouvais pas me projeter à plus d'une semaine. C'est-à-dire est-ce qu'on rouvre la semaine, est-ce que si, et là, maintenant, les frontières étant fermées. Je sais que l'année 2021 est à l'eau.
Ouais.
Voilà. Sans international.
Même sur les voyages d'affaires. Parce que
oui,
c'est vrai
oui,
que ça
oui.
va limiter.
Alors, l'étranger, on ne peut plus voyager. Les frontières sont fermées.
Oui.
À part.
En dehors de l'Union européenne. Hein, on peut encore voyager à l'intérieur de l'Union européenne. Est-ce que, même avec. Mais il faut des tests de PCR. Pourquoi vous dites toute l'année 2021 et vous ne pensez pas que cet été, en septembre, ça puisse redémarrer?
On a déjà pensé cette année. On s'est dit ça va repartir cet été. Les restaurants ont pu rouvrir et certains ont même très, très bien travaillé cet été.
Oui.
Pendant la période où ils avaient les terrasses. Surtout, il faisait beau. Mais nous, rien. Juillet, août, rien. On s'est dit, ça va repartir en septembre, parce que septembre-octobre est une très haute saison en hôtellerie, avec toutes les conventions, etc. Rien.
Ouais.
Et là, la semaine dernière, c'était la Fashion Week.
Ouais,
Je n'ai pas eu un client pendant la Fashion Week.
Ouais, ouais. Alors que d'habitude, évidemment, c'est plein, quoi. C'est plein. Oui, mais on ne vient nulle part. Et même, indépendamment du fait que les frontières soient fermées, quoi qu'il en soit, même sans cette fermeture, les touristes ne venaient pas.
Les touristes ne venaient pas, pas de touristes. et pas de corporate. Oui. Il faut savoir qu'à Paris, toutes les conventions, toutes les grosses conventions, les salons au Bourget, Port de Versailles, etc., tout est annulé. Oui. Et les entreprises qui ont des réunions font toutes du télétravail. Oui, oui. Donc je n'ai ni touriste, ni corporate.
Ah oui. Bon, alors allons-y sur les salles de sport également, qu'on a évoquées tout à l'heure, Élodie Garamond. Je sais qu'il y a des discussions quand même avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Qu'est-ce qu'on vous répond? Est-ce qu'on vous donne des perspectives pour les semaines qui viennent, ou en tout cas ce printemps?
Non, la seule perspective positive, c'est d'avoir fait passer le sport comme activité essentielle. Ça, c'était un engagement de la ministre des Sports qui, a priori, devrait nous permettre, en cas de réouverture de tous les établissements recevant du public, de passer au même titre que la culture, par exemple, dans les activités essentielles. Et c'est ce qu'on demande. Mais elle nous dit, en échange, il va falloir accepter ce fameux port du masque pendant les activités sportives, puisque c'est le seul moyen de nous distinguer, désolé, des restaurants.
Ouais.
Et de nous désolidariser de la restauration, et donc de dire, on pourrait éventuellement rouvrir plus vite. Mais aujourd'hui, on sait très bien, dans notre collectif d'entrepreneurs du sport, et on est à peu près une centaine de patrons de salles de sport, qu'il n'y a aucune perspective avant le mois d'avril. Et qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril? C'est que, contrairement aux restaurateurs, le jour où ils vont rouvrir, les clients vont affluer massivement parce qu'ils auront envie de consommer, la trésorerie va rentrer. Nous, déjà, on aura été stigmatisés, donc les gens auront peur, parce qu'il y a quand même eu une campagne pour nous pointer du doigt comme étant des lieux de contamination qui est parfaitement
non avéré, en plus.
Non avéré et qui doit être réparé, vraiment. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire de nos encours clients? Parce que nous, on fonctionne avec des abonnements ou des carnets de cours en fonction de nos activités diverses et variées. Mais ces encours, ils existent. On n'a pas de moratoire pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, j'ai à peu près 700 000 euros d'encours clients. Je fais comment quand les clients vont revenir? On aura été fermé quasiment un an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont venir, ils vont consommer, ils auront bien raison et je serai ravie de les accueillir, mais sans payer pendant encore quoi? 6 mois, 9 mois, 1 an? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Donc aujourd'hui, on est dans une détresse et on n'est absolument pas aidé parce qu'il n'y a pas de... Rien n'est imposé aux bailleurs, rien n'est imposé aux assureurs.
Et les bailleurs, qui continuent de...
Alors, il y a ce merveilleux... Absolument, puisqu'il ne se passe rien. Donc, nous, par exemple, sur les 6 centres que j'opère, il y a un bailleur qui a accepté de nous accompagner en disant « Je vous fais 50% de remise sur votre loyer du premier jour au dernier. » Et en plus, qui nous encourage. Mais je peux lui dresser une statue dans la cour du tigre. Mais c'est tout,
bravo,
un seul.
Et
les
lui,
autres disent « Mais vous allez avoir des aides sur les charges. » Alors, d'abord, il y a quand même des petits trous, parce que quand on ne fait pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ou quand on fait plus que si, ou qu'on a plus de salariés ou moins de salariés, il y a à peu près 20 000 entreprises qui passent dans les mailles du filet. Malheureusement, j'en fais partie. Donc nous, non, on n'est pas éligible sur l'aide sur les charges, mais par contre, il faut continuer à payer les loyers. On fait comment? On n'a pas rentré de trésorerie depuis le mois de mars l'année dernière. Ça va faire un an. On est à moins 95% de perte de chiffre d'affaires, qui est compensé à 5% par les cours en digital. Alors tout le monde nous dit, oui, mais regardez, vous pouvez faire des cours sur Internet. Alors déjà, c'est quand même une offre qui est devenue pléthorique. Et en plus, à quel moment 50 cours sur Zoom à 10 euros le cours vont compenser 650 cours à 25 euros en physique? Il faut être capable de calculer un peu.
Ce qui est fou, c'est qu'en plus, beaucoup parlent de précarité psychologique, où on se dit que le sport est très important, que de sortir, d'avoir une activité qu'on prenait il y a encore 2 ans en disant faites du sport, vraiment faites du sport, mangez des légumes, faites du sport. Et aujourd'hui, plus rien.
Mais ce qui est dramatique, mais vous avez tellement raison, c'est qu'on est un acteur majeur de la prévention santé mentale et physique. Et aujourd'hui, la santé mentale est en train de devenir un facteur de danger sociétal majeur. On le voit, les gens sont en déprime, en détresse. Ils ont peur. Il y a ce sentiment de désorientation parce qu'on n'a plus aucun repère spatio-temporel. On ne sait pas où on aura le droit d'aller, quand, où, quoi, comment. Et on aurait plus que jamais besoin d'être accompagné par une pratique sportive, de se défouler. On n'a plus le droit de rien faire. Et ce matin, quand on entend cette histoire des deux roues qui n'ont plus le droit... Et je me disais, mais pourquoi ils nous font ça maintenant? On est tous...
Les deux roues qui ne peuvent plus, évidemment, être doublées.
Non, mais c'est un détail. Mais les gens sont à bout de nerfs, vraiment. On peur, de la colère, de la frustration, de la peur, des rancœurs. Et on impose tout et n'importe quoi. Et on n'a pas le droit de faire de sport.
Et on n'a pas le droit d'exercer.
Est-ce que, pour terminer peut-être sur cet aspect du sport. Est-ce qu'on pouvait faire une distinction entre certains sports que l'on pouvait continuer de pratiquer, où il y avait des protocoles qui pouvaient être respectés, et puis d'autres où c'était un petit peu plus compliqué, peut-être sur des sports co, quoi.
Oui, absolument. Exemple. C'est d'ailleurs ce qu'on avait demandé quand le premier décret est tombé le 25 septembre sur la fermeture des salles de sport. On a posé avec un collectif qui s'appelle Save My Yoga, qui s'est créé à ce moment-là. On a déposé un référé liberté qui a été entendu puisque la présidente du tribunal administratif de Paris avait demandé au préfet de revoir sa copie, justement en rentrant dans le détail des activités. Et nous, on demandait une distinction pour les activités physiques sans contact. Parce qu'évidemment, ces activités-là ne sont pas des activités de contamination. Et malheureusement, il y a le confinement qui est retombé juste avant le nouveau décret que devait déposer le préfet. Oui. Donc voilà, ça a été
des concours passé
à la trappe. Il devait y avoir des chiffres. On n'a aucune étude chiffrée. Les chiffres devaient sortir. On les a jamais eus. Voilà, le calendrier est plus que malencontreux, mais aujourd'hui, il y a un vrai sentiment d'injustice et surtout d'absurdité parce qu'on est là pour aider les gens, pour leur faire du bien dans une période où ils en ont plus que jamais besoin. Ouais.
Mais est-ce qu'il y avait des salles qui ne respectaient, un peu comme pour les restaurants, je le disais tout à l'heure, qui ne respectaient pas tout et qui ont, et résultat, les autres ont payé pour l'ensemble ou pas, non?
Alors, non, c'était je ne pense comme... pas. Je pense qu'il y en a qui ne respectent pas tout. Je pense qu'il y en a qui ont trouvé les failles leur permettant de rester ouvrir. Et vraiment, bravo et tant mieux pour elles. Mais ceux qui ont été, entre guillemets, les clusters ou les contaminants dans le monde du sport, c'est plutôt le sport associatif. Et c'est logique, c'est la troisième mi-temps de rugby. Ouais. Je suis désolée, je ne les pointe pas du doigt. Ouais. Mais les cas contacts, les cas de Covid sont là. Mmh. Ils ne sont pas dans une salle de yoga.
Oui, bien sûr. Dans du sport individuel où on peut encadrer. En fait,
mais c'est surtout
les choses, quoi.
Mais on a une traçabilité qui n'existe nulle part ailleurs. Honnêtement, on devrait servir d'exemple pour tous les ERP en termes de traçabilité, de protocoles sanitaires, d'accueil, de prévention des risques. On est vraiment les bons élèves de la classe et on a été les plus punis.
Oui. On sait quand les gens rentrent, quand ils sortent et en fait ils ont des
cartes de membres. Mais bien sûr, mais surtout, Cécile, quand vous avez un prof de sport, de fitness, de yoga, si vous sentez que vous rentrez chez vous et que vous avez de la fièvre, vous allez penser à le prévenir. Parce que vous le connaissez, il y a un affect qui se crée avec votre salle de sport ou votre salle de yoga. Si vous êtes passé dans un café, ou vous êtes allé dans un bus, ou vous êtes allé dans un autre RP, vous pensez à prévenir personne.
Bien sûr. Ouais.
Et à l'étranger, en un mot, les salles de sport, même chose, c'était un peu en désordre, quoi, ce qui s'est fait à l'étranger, quoi, non?
Ça s'est ouvert, fermé. On a regardé les protocoles sanitaires des salles de sport de nos voisins, notamment en Allemagne, et honnêtement, on n'a rien à leur envier.
Oui. Merci, en tout cas, à vous, Élodie Garamond. Donc, vous parliez notamment aussi pour le collectif de Touche pas à ma salle, ma salle de sport, et puis fondatrice du Tigre Yoga Club. Alors, il y a toujours, évidemment, sur Internet, quand même, on peut suivre des cours et essayer de se relaxer, parce qu'il y en a besoin aussi. Merci à Vincent Ahen d'avoir été avec nous, représentant d'hôtelier, bien sûr, avec votre établissement à Paris. Xavier Denamur qui était avec nous, et puis également Eric Sermolace du côté de Marseille. On va poursuivre dans un instant avec Valérie Expert, et on retrouvera André Bercoff à la mi-journée.
Ah oui, et Valérie Expert qui reçoit Marie-Lou Berry dans un instant. Bougez pas, et nous, on vous retrouve demain matin.
À ciao, à demain.